Alors, on poursuit sur notre thème de l'argent et comme on est à peu près à quoi, un peu plus de 3 semaines de la date limite pour produire sa déclaration de revenus pour 2018, ben on s'est dit ça serait important peut-être de revenir avec une espèce de clinique d'impôts. C'est vrai qu'on quand on est rendu à faire nos impôts, on se dit bon, où est mon comptable? Il y a des gens qui comptent sur des logiciels pour le faire eux-mêmes. C'est vrai que c'est fascinant parce que quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a beaucoup de Québécois qui se tournent vers les logiciels, qui font leur impôt eux-mêmes. Et la raison première, c'est que vous voulez vous en débarrasser. On haït tellement ça faire nos impôts qu'on se dit, je vais faire vite. T'as l'impression que ça te fera moins mal si tu le fais vite. En même temps, ça fera peut-être moins mal sur le coup, mais peut-être que sur le long terme ou le moyen terme, t'oublies des choses qu'un vrai comptable t'aurait trouvé. Et donc, c'est pour ça que je vous propose une heure en compagnie d'un comptable professionnel agréé. Il est fiscaliste aussi. Il écrit le best-seller « Réduisez vos impôts ». Évidemment, chaque année, c'est remis au goût du jour parce que les gouvernements sont intéressants, les gouvernements. Ils nous changent ça tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles règles. André Boulay est avec nous. Merci d'être là, André.
Bonjour, Isabelle.
Quand vous êtes venu il y a quelques semaines, ça a été un gros hit parce que les gens avaient tellement de questions pour vous. Alors, on se dit, reprenons là où le laisser. On était dans la période des REER en février. Là, peut-être rappeler que de toute façon, pas besoin d'attendre à février prochain pour mettre de l'argent dans son REER, pour ceux qui y croient encore, bien sûr.
Ben, en fait, c'est un peu le conseil que je donnais, c'est d'y aller progressivement à chaque mois ou à chaque paie et de mettre au moins un montant de base. Et par la suite, ben, quand arrivera la période de janvier-février, ben, si vous avez plus de liquidités, ben, vous pourrez compléter les REER. Je pense que ça fait moins mal et c'est plus facile à entrer dans un budget que d'arriver en janvier-février où là, on a les taxes, on a...
Et on a surtout le compte de dépenses de Noël et du jour de l'an qui nous arrive. J'en profite pour donner tout de suite nos numéros pour ceux qui veulent, et ceux et celles, bien sûr, qui veulent avoir des trucs pour sauver de l'impôt. Vous nous appelez pour parler à André au 514-790-9850. Partout au Québec, ça vaut pour vous également et c'est sans frais. 1-866-790-9850. C'est fascinant parce que bon an, mal an, André Boulay, les deux tiers des contribuables attendent toujours le mois d'avril pour faire leurs devoirs, pour faire ramasser leurs reçus, chercher leur T4. Des fois, tu l'as pas reçu, il faut courir après. Quels sont vos conseils généraux là-dessus? Là, pour quelqu'un qui n'a pas encore entamé là, tout le processus de colliger ses infos pour l'impôt?
Ben, je disais que l'Agence du revenu du Canada avait reçu, était un peu en retard. En fait, les contribuables avaient pas produit leur déclaration fiscale. Je pense qu'ils étaient juste à 30 % la semaine dernière des déclarations qui étaient entrées à travers le Canada.
Mais on est dans les temps encore, là,
rassurez
les gens.
Oui, on est dans les temps. On a jusqu'au 30 avril. Il y a un phénomène que j'ai remarqué avec le temps aussi, c'est la Pâques. OK? Ou Pâques arrive, souvent, c'est la période que les gens disent, ben là, j'ai quelques jours, je vais m'installer pendant le week-end, puis je vais faire mes déclarations fiscales. Pâques est tard cette année, c'est peut-être un des phénomènes. Mais il y a un autre phénomène aussi important, c'est que les feuillets nécessaires à la préparation des déclarations fiscales entre de plus en plus tard. La majorité ont jusqu'au 28 février. Maintenant, si vous avez...
Les feuillets, c'est les T4, ça.
Les T4.
Ou les T1 ou les whatever.
Exact. Ouais, donc, tous les T quelque chose. Là. Ouais. Alors donc, tous ces feuillets-là, il y en a, écoutez, il y en a qui en reçoivent encore. Là. On est en début avril.
Mais j'ai même quelqu'un qui m'a écrit cette semaine et qui me disait, hey, qu'est-ce que je fais? Qui me demandait mon avis. J'ai dit, madame, on est là avec notre comptable jeudi, vous pourrez poser la question, mais en gros, je vous la pose tout de suite, André Boulay, c'est parce que cette dame me disait, moi, j'ai déjà envoyé mon rapport d'impôt, elle était en avance, mais je viens de recevoir un T4, parce que c'est une travailleuse autonome qui a plusieurs clients. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça?
Ben, évidemment, si cette rémunération-là, vu que c'est une travailleuse autonome, elle l'a peut-être déjà inclus dans son revenu.
Maintenant, ce que je comprends, elle l'avait pas inclus. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une modification.
Exact. Une modification. Évidemment, si elle ne le fait pas, ben, comme c'est un T4, les autorités fiscales vont le recevoir et vont faire la correction. Mais si elle fait cette correction-là avant le 30 avril, ben, elle va éviter des intérêts. Comme un travailleur autonome, il n'y aura pas de pénalité. Elle a jusqu'au 15 juin pour préparer ses déclarations fiscales. Mais idéalement, ce serait peut-être de faire une modification pour régulariser cette situation-là.
Ça, c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui hésitent ou évitent de faire des modifications de la déclaration première qu'ils ont faite parce qu'ils se disent, oh, des fois, tu retrouves des reçus, tu dis, oh, j'avais oublié telle affaire. Mais tu te laisses faire parce que tu te dis, bof, d'un coup, qui me vérifie pendant 3 ans juste parce que j'ai fait ça. Vous qui êtes aussi fiscaliste, vous êtes membre du groupe de travail technique aussi sur la fiscalité et les taxes à la consommation de l'ordre de CPE. Vous êtes bien au courant de ce que les gouvernements ont comme attitude par rapport aux contribuables. Est-ce que c'est le genre d'attitude, ce qui va mettre des gens dans le trouble?
Ça dépend du type de modification que vous allez faire. Si vous avez omis de déclarer un revenu d'intérêt, c'est pas pareil comme si vous êtes travailleur autonome puis que vous décidez d'augmenter une dépense ou d'augmenter vos revenus. Ça peut susciter peut-être des questionnements auprès des autorités fiscales. On sait que la majorité, en fait, quasiment toutes les déclarations fiscales initiales ne sont pas traitées par une personne humaine. Le traitement s'en va directement par le système et par la suite, il va y avoir un traitement sélectif qui va se faire pour certains types de déclarations. Donc,
je voulais dire, c'est les ordinateurs qui reçoivent nos rapports d'impôts. Il faut dire que 90% des gens le font par voie électronique maintenant. Là.
Exact.
Donc, puis le reste du 10%, il va falloir qu'ils s'y mettent. Hein? Mais donc, c'est un ordinateur qui traite ça?
Oui. C'est les données, ils sont envoyés, c'est encrypté, puis ça arrive à telle ligne, à tel chiffre, ils cotisent. C'est toujours marqué que c'est une cotisation sujette à changement. Alors, ils ont comme un délai de prescription de 3 ans pour modifier votre déclaration fiscale. Alors, donc...
Et qu'est-ce qui fait qu'il va y avoir éventuellement quelqu'un humain qui va regarder ça?
Alors là, c'est que...
Ça, c'est aléatoire?
Exact. Dans des programmes souvent décidés, donc cette année, ils regardent... le programme des revenus locatifs, par exemple. Alors, donc, ils vont sélectionner des gens au niveau qui ont déclaré des revenus locatifs. Une autre année, ça va être les frais de garde pour enfants.
Comme à la douane. Au hasard, tu sais pas quand ça tombe sur toi, mais tu peux avoir la fouille à nu.
Exact.
Pas à nu, là, mais quand vous avez compris. on a Gisèle avec nous. Bonjour, Gisèle.
Bonjour.
On vous écoute. Vous avez une question pour André Boulin, notre comptable?
Oui, j'ai une question. Moi, j'ai 70 ans. Mon conjoint est décédé en 2017. Alors, cette année, ça va être la première déclaration d'impôt que je fais pour moi personnellement. J'ai décidé de rester dans ma maison, mais je trouve ça ardu. C'est quand même beaucoup de frais, beaucoup de dépenses que j'ai à faire, que j'avais pas à faire quand j'avais mon conjoint parce que... Et là, je suis obligée de payer pour plein de choses. Je me demandais, est-ce qu'il y a des déductions spéciales qu'on peut faire quand on est dans ma situation?
André?
Ben, en fait, comme vous me dites que vous avez 70 ans, à compter de l'âge de 70 ans, il est possible de réclamer ce qu'on appelle les crédits au Québec de maintien à domicile. Alors donc, par exemple, si vous faites faire la pelouse, la taille de votre haie, vous faites faire le déneigement, si vous avez un abri d'hiver pour votre automobile, l'installation et au printemps, la désinstaller.
Tout ce qui est une aide à la personne qui est chez elle à domicile
exact,
après 70 ans.
Exact, pour maintenir, en fait, des activités qu'on est moins susceptible d'être capable de faire. Ça peut aller même si la personne a des problèmes de santé, l'aide infirmière, s'acheter des repas via la popote mobile. Évidemment, les repas, il faut que ça soit un organisme à but non lucratif qui fournit les repas.
Tout ça, c'est déductible d'impôt.
C'est déductible dans le crédit de maintien à domicile, qui est quand même intéressant. C'est un crédit remboursable qui est de l'ordre de 35%. Sommes que vous avez reçues. Donc, si vous ne payez pas d'impôts, ben, on va vous rembourser quand même. Il faut juste faire attention, dépendamment de votre revenu, ben, il y a un seuil où on commence à perdre ce crédit-là. On tourne autour de 55 000, 56 000 $ où là, il va y avoir une réduction du montant de votre crédit.
Merci, Gisèle, de votre question. Paul, bonjour.
Oui, bonjour à vous deux. Écoutez, moi, j'ai une question pour monsieur le comptable. J'ai vendu une propriété, j'ai fait un gain en capital. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais déduire du gain en capital comme tel. Est-ce que je peux déduire, par exemple, le contrat notarié? Est-ce que je peux déduire la taxe de mutation? Est-ce que je peux déduire les taxes foncières? Qu'est-ce que je peux déduire?
Est-ce que c'était votre résidence principale ou c'était une résidence d'investissement? C'était un investissement?
Non, c'est un investissement ou c'est une terre à bois.
Ah, OK. André Boulay.
OK. On présume que la vente de votre terre à bois est un gain en capital. Je ne sais pas ce que vous avez fait avant, là, mais techniquement, c'est tous les frais inhérents à la vente. OK? Si vous avez payé une commission à l'agent d'immeuble, vous allez pouvoir la déduire. Les frais de quittance, par exemple, si vous aviez une hypothèque. Les droits de mutation, en fait, font partie du coût au moment de l'acquisition. Donc, ça peut augmenter votre, ce qu'on appelle notre prix de base rajusté ou notre coût fiscal du bien. Donc, vous pourriez rajouter au coût à l'origine votre taxe de bienvenue qui va venir réduire votre gain en capital.
Merci, Paul, de votre question. Bonjour, Carl.
Oui, bonjour. Je vais fermer la radio, ça va aller mieux. J'avais une question. Je suis travailleur autonome. Je suis en train de vérifier avec vous les avantages d'offrir la taxation à mes nouveaux clients.
L'avantage, ben, en fait, en TPS, vous parlez sûrement de la TPS TVQ.
Ben, la TPS TVQ. Présentement, l'entreprise est en bas de 30 000, mais je suis en train d'envisager d'augmenter mes tarifs pour pouvoir aller sur la taxation. Mais là, je veux vérifier un peu la programmation, comment ça fonctionne au niveau des avantages.
En fait, vous êtes considéré au niveau de la loi sur la taxe d'assises et la TVQ comme étant un petit fournisseur. Et le choix que vous avez, c'est de vous inscrire ou de ne pas vous inscrire. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne chargez pas de taxes, mais vous ne pouvez pas réclamer ce que vous payez en taxes.
C'est ça.
OK? Alors que si vous décidez de vous inscrire et que vous êtes en bas de 30 000 $ vous allez être obligé de charger la taxe et vous allez pouvoir réclamer les intrants là, que vous allez avoir payés pour l'exploitation.
Donc, finalement, est-ce que c'est avantageux pour Carl de faire ça?
Ça dépend des clients. OK?
S'il y a beaucoup de dépenses de roulement, de fonctionnement, ça peut être avantageux.
Ça peut être avantageux, mais il faut regarder nos clients. Si nos clients sont des particuliers qui ne peuvent pas déduire la taxe,
ouais,
ça vient de leur coûter 15 % environ de plus. Ouais. Alors que si c'est des entreprises qui sont inscrites, ben eux sont un peu indifférents parce qu'ils vont payer la taxe, mais ils vont la réclamer.
Exact.
Donc, l'avantage pourrait être pour vous d'avoir plus d'intrants, donc une réduction de vos coûts d'opération. Et ben, ça peut créer un désavantage si vos clients sont des particuliers qui ne peuvent pas déduire la taxe.
Voilà. Merci, Carl, de votre question. On s'arrête ici. Très courte pause. On revient et on poursuit notre clinique d'impôts avec le comptable professionnel agréé qui est également fiscaliste, André Boulet. Préparez vos questions. Dites-nous vraiment qu'est-ce qui pourrait vous aider. Et on va essayer de clarifier tout ça. C'est bientôt la date limite. Alors, on essaie de vous aider aujourd'hui. 514-790-9850 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais. On a Marc avec nous qui a une question pour notre comptable André Boulet. Bonjour Marc.
Bonjour à vous. Je vais essayer de faire ça vite pour prendre trop de temps d'antenne. Dans le fond, j'ai travaillé de janvier à septembre pour une entreprise rémunérée comme employé.
Mm-hmm.
J'étais congédié parce que je n'obtenais pas mes slips de paie, ma paie de vacances. Par la suite, j'ai tombé consultant en logistique d'entreposage pour une entreprise. J'étais payé, je facturais à l'heure, mais j'ai pas facturé de taxes ou quoi que ce soit. Mais j'ai serré 40 % de ces montants-là. Là, aujourd'hui, j'ai pas mes T4, j'ai pas de cessation d'emploi de l'entreprise de janvier à septembre. J'ai fait des plaintes au nombre du travail, assurance emploi, mais ça me donne pas mes documents pour l'instant à produire mes impôts. Mes questions sont: est-ce que je peux faire un estimé à partir des chèques que j'ai reçus de janvier à septembre et puis de octobre à décembre? Est-ce que j'ai le droit de déduire essence et cellulaire utilisés pendant le temps de consultation pour les entreprises à laquelle j'ai offert du service de consultant logistique?
André?
Oui. Alors, c'est des situations qu'on rencontre là, que l'employeur n'a pas envoyé des relevés. Il est tenu de le faire. Donc, légalement, si on regarde au niveau de la loi de l'impôt, il est tenu de faire ça avant le 28 février. S'il ne l'a pas fait, faut faire attention. Là. Maintenant, les employeurs ont le droit d'envoyer votre relevé T4 et relevé 1 par informatique. Je ne sais pas si vous leur aviez donné.
Avec vérification avec Revenu Québec, Revenu Canada, ça n'a pas été effectué.
OK. Donc, il est peut-être en défaut. Alors, dans ces cas-là, les autorités fiscales doivent nous disent, ben, vous devez faire un estimé le plus juste possible de ce que vous avez gagné, ce que vous avez payé en impôts. S'il n'y a vraiment pas produit puis qu'ils ne peuvent pas valider cette somme-là, ben c'est sûr et certain, en donnant le nom, il y a sûrement un enclenchement qui va se faire pour aller vérifier pourquoi il n'y a pas produit ses relevés.
Quant à ses dépenses de consultant, il peut les déclarer puis les déduire?
Ben, en fait, vous avez une situation hybride. Là. Vous êtes salarié puis en même temps, vous êtes travailleur autonome pour une partie de l'année. Donc, pour la partie de l'année que vous avez été à titre de travailleur autonome, vous allez pouvoir réclamer vos dépenses que vous avez eu pour gagner ce revenu-là. Évidemment, il faut faire attention. Si vous avez des repas, ce n'est pas déductible à 100 %. Donc, il y a certaines...
C'est combien? C'est 50 %?
C'est 50 %.
Oui.
OK. Maintenant, il y a peut-être des choses. Si vous avez fait ça à partir de votre maison, vous avez peut-être le droit d'un bureau à domicile et vous avez peut-être droit aussi à des frais reliés à votre véhicule si vous vous êtes déplacé pour les fins de votre travail, voilà. En fait, de votre consultation.
Mm-hmm. Merci, Marc. André, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. La question est la suivante. En juillet 2014, j'avais un immeuble à revenu. Je demeurais dans cet immeuble. Ma conjointe demeurait dans cet immeuble-là. Elle a déménagé avec moi. Et en juillet 2018, juillet passé, on a vendu notre condo. On a aménagé dans le triplex. Maintenant, je me fais dire qu'il aurait fallu que l'immeuble change de vocation quand on a quitté. Et la solution, ce serait de trouver ou d'avoir une idée de l'évaluation de l'immeuble en 2014 et l'évaluation en 2018. Et il va y avoir une conséquence. Est-ce que vous pouvez m'expliquer genre de conséquence ou c'est quoi le problème?
André Boulay.
En fait, c'est les règles qu'on appelle le changement d'usage. Lorsqu'il y a un changement d'usage, que ça soit locatif vers personnel, ce qui semble être votre situation, là, il est devenu locatif par la suite. En fait, là, ce qu'il y a à préciser, c'est que vous dites que votre conjointe habitait dedans avant. Est-ce qu'au moment où elle habitait, elle était conjointe avec vous? Ou c'était une amie?
Ça faisait déjà une couple d'années là, qu'on était ensemble.
OK. Alors, donc, elle vivait avec vous dans cet immeuble-là. Donc, si c'est la situation, ben, on part d'une situation où vous étiez, c'était votre logement personnel, et il est devenu à des fins locatives. Donc, dans ce cas-là, il y a changement d'usage, mais il pourrait y avoir des conséquences fiscales, et c'est vrai qu'il faut avoir l'évaluation. Maintenant, quand vous faites l'inverse, il y a encore un changement d'usage. Donc, s'il est personnel et redevient locatif, ben il va y avoir également changement d'usage. Il faut faire attention, il y a un choix là, qu'on pourrait peut-être faire de considérer votre immeuble encore à vocation locative pour une période de 4 ans. Alors, c'est un peu les règles. C'est des règles un peu plus difficiles à traiter. Là.
C'est sûr que ça prend un comptable pour faire ça, André. Faites pas ça vous-même. Prenez pas de chance.
Non. J'ai pas l'intention. Et même pour trouver l'évaluation, j'ai engagé un évaluateur qui va me donner une évaluation de l'immeuble approximatif en 2014 versus 2018. C'est la bonne formule?
Oui. C'est la bonne formule. En fait, ce qu'on vous a dit, c'est vrai qu'il y a des changements, il peut y avoir des conséquences fiscales. Il faut faire des évaluations de la valeur et vous êtes dans la bonne voie. Il s'agit juste de bien traiter ça dans votre déclaration fiscale.
Merci, André. Claudine, bonjour.
Bonjour, bonjour, Mme Marissal, M. Boutin. Moi, je voulais vous demander une question. Avant, j'habitais toute seule. Mm-hmm. Je reçois juste des revenus de retraite. Mais maintenant, j'ai pris mon frère chez moi parce qu'il est malade, mm-hmm. Et reçoit l'aide sociale. J'ai plus droit au crédit de personne vivant seule. Je veux savoir si j'aurais droit à un crédit quelconque.
Êtes-vous aidante naturelle d'une certaine façon, Claudine?
Ben, je peux pas dire ça, mais il reçoit l'aide sociale. Fait que, tu sais, je demande rien à mon frère, là, tu sais.
Il n'est pas malade. Il n'est pas forcément malade, là.
Il reçoit l'aide sociale parce qu'il est malade.
Ben, c'est ça.
Bon. Il a 63 ans. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai 63 ans. C'est mon frère jumeau, là.
Okay. Mm-hmm. En fait, il y a un crédit potentiel. Là, c'est les crédits autant au fédéral qu'au provincial des aidants naturels. Sauf que là, vous pourriez être bonifié dans votre crédit si votre frère est considéré comme handicapé.
C'est ça.
Alors là, pour arriver à déterminer ça, ben faut compléter un formulaire via le médecin, et maintenant, c'est possible de le faire par une infirmière praticienne qui va déterminer si il est considéré comme handicapé aux fins de la loi de l'impôt. Alors, il faut qu'il y ait quand même une
limitation. Il faut que le proche soit admissible.
Exact.
C'est ça. Oui, mais lui, il aime pas, puis il n'est pas capable. Il a de la misère à marcher, il est étouffé tout le temps. Bon.
Évidemment, dans le formulaire et dans les critères d'handicap, s'il y a de la misère, dans le formulaire, on parle de marcher d'un pâté de maison dans un délai raisonnable, ben il pourrait être considéré comme handicapé. Et c'est là que vous pourriez réclamer peut-être un montant supplémentaire, étant donné que vous êtes comme son aidant naturel.
Mm-hmm. Est-ce que c'est un crédit ou c'est un montant déductible?
C'est un crédit d'impôt qui vient réduire votre impôt à payer.
Sur le revenu qu'elle gagne, donc.
Exact.
C'est ça. Donc, c'est, oui. Si vous n'avez pas de revenus, Claudine, vous avez compris que c'est pas pour vous.
Ben, c'est des revenus, mais des revenus de retraite.
Ben, ouais, ça revenus. Marche aussi. Revenus. Ouais, oui, oui, revenus. Oui. Tout revenu.
Ah, ouais.
Ouais. Okay. C'est le cumul de tous les revenus que vous avez.
Merci, Claudine. J'ai une question ici intéressante. Combien ça coûte, fourchette de prix, pour faire son rapport d'impôt, faire son rapport par un comptable, André?
Évidemment, là, on parle
ça
d'un
dépend du comptable?
Ouais, non. ça, si on parle d'un comptable, un CPA, là, qui, ouais. Qui a un titre professionnel, ça va varier. Si vous êtes, on parle d'un couple, là, ça peut varier entre 250 et 300 $. Si vous êtes seul, ça va varier souvent entre 125 et 150.
Mais plus mais c'est dépend. Compliqué.
Effectivement.
Puis là, plus c'est long, puis c'est coûteux à ce moment-là. Donc,
mais
tu sais,
il faut regarder ça dans une perspective. Soit qu'on va trouver, en fait, on va réclamer le maximum que vous avez droit, ou on va éviter d'avoir des erreurs qui, un jour, seront rattrapées par une cotisation d'impôt.
On a José avec nous. Bonjour, José.
Bonjour.
On vous écoute?
Bonjour, moi j'ai une information. En fait, je voudrais comprendre. Je suis une employée. Depuis 2 ans, je n'ai plus d'assurance collective à mon travail. Donc, je suis avec le régime du gouvernement. Et depuis 2 ans, à cause de ça, ce qu'on m'a dit, ben je leur dois 550 $ d'impôts à tous les ans.
Ouais, c'est
y a-t-il moyen de faire quelque chose? C'est quoi cette patente-là?
Ça s'appelle la cotisation santé, quelque chose du genre?
Ben, c'est la cotisation au régime...
cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec.
Exact. Mm-hmm,
exact
en fait,
ça.
La façon que ça fonctionne, la question de la couverture des médicaments, c'est vous avez deux possibilités. Soit que vous avez un régime collectif, et si vous avez un régime collectif, vous n'avez pas à payer la prime annuelle au gouvernement. Si vous n'êtes pas couvert par un régime collectif, vous devez payer une prime en fonction de votre revenu que vous avez gagné.
Donc, si vous êtes sur... combien?
C'est le maximum actuellement, c'est autour de 625 $. Si vous êtes en bas de ça, c'est probablement que votre revenu n'a pas atteint le seuil pour être au maximum. Maintenant, il faut comprendre que ce montant-là peut être considéré comme un frais médical. Donc, vous pourriez peut-être récupérer une économie d'impôt en les additionnant avec vos autres frais médicaux que vous avez.
Je comprends pas.
Oui, ça veut dire qu'on peut prendre le fait qu'on paye, mettons, là, pour José. Elle peut prendre
fond,
son 5,50.
Moi, à toutes les semaines, je paye rien au gouvernement pour mes médicaments. Sauf que quand je vais à la pharmacie, j'ai quand même une réduction de prix.
Non, mais vous payez quelque chose, parce que normalement, je pense que c'est 69 % 67 % là, que le
ben, en fait,
la RAMQ
il y a une exemption mensuelle qui tourne
mais vous payez
de 10-11
une partie, donc, de vos...
Puis vous avez une co-assurance sur le médicament. Puis dans certains cas, il y a des médicaments qui ne sont pas couverts du tout.
C'est ça.
Alors, cette portion-là devient des frais médicaux que vous avez payés. Et il existe dans la loi de l'impôt un crédit d'impôt pour les frais médicaux que vous payez.
Mais vous dites auquel on peut additionner le 550 que José va devoir payer.
Exact.
Parce que le 550 est considéré comme un frais de santé.
Exact.
Qui peut être déductible.
Exact. Qui vient augmenter le montant des médicaments que vous avez payés. Donc, la prime est considérée comme un médicament.
Donc, la prime que nous charge le gouvernement est déductible d'impôt.
Ben, elle est déductible en fonction
du revenu
du
qu'on
montant
gagne.
Que vous avez eu de frais médicaux et de votre revenu.
C'est ça. C'est un peu cocasse quand même, vu de même.
Oui.
Ben, merci, José. Ça, c'est intéressant parce que souvent, en fait, moi, je vous conseille parce que c'est ce que je fais. Tu vas voir ton pharmacien, tu lui demandes, avant de faire tes impôts, pouvez-vous me sortir tous mes frais de l'année? Vous faites ça pour tous les membres de votre famille, puis ça vous donne une idée de ce que vous avez payé et vous mettez ça dans votre déclaration de revenus, n'est-ce pas?
Mais s'il n'y a pas juste ça.
Il y a les frais de santé.
Il y a les lunettes.
Les lunettes.
Il y a les dentistes
non
couverts. Mmh. Et là, il y a une panoplie de d'autres services médicaux. Les thérapeutes genre...
Psychologue.
Chiropraticien, psychologue.
Massothérapeute, ça rend... C'est-tu accepté?
Massothérapeute.
On a mal dans le dos, on va voir son massothérapeute,
non,
tu payes?
Ça
non, c'est
pas.
Pas, ça marche pas.
La seule chose qui pourrait
ostéopathe?
Fonctionner au niveau des massothérapeutes, c'est si c'est donné par une prescription médicale et que le médecin fait un suivi avec le massothérapeute. Donc, c'est assez c'est
et ostéopathe, tout ça?
Ostéopathe fonctionne au Québec seulement, ne fonctionne pas au fédéral.
Ah, intéressant.
Le naturopathe également peut fonctionner. Donc, il y a plusieurs éléments là, que les gens paient puis qui omettent.
Et c'est quoi le retour? Il ne faut pas virer fou, ils ne vous le remboursent pas au complet. Là,
c'est pas loin de 35 % du montant que vous avez payé.
Pour tous?
le fédéral ou provincial.
Ça dépend de
ben, en
du
fait,
service.
C'est que ça fonctionne de la façon suivante. C'est que le premier 3 % de votre revenu que vous gagnez n'est pas admissible. Cependant, ce montant-là est plafonné. Ça veut dire que vous avez le premier 2 300-2 400 cette année n'est pas admissible. Maintenant, l'excédent devient admissible. Ça, c'est pour ce qui est du fédéral. Au Québec, c'est le même calcul, mais on va prendre le revenu des deux. Revenu fédéral et provincial. Le revenu de monsieur et de madame, si on est en
Mais le 2300, c'est quoi, là?
Le 2300, c'est le montant la barrière qu'on impose pour dire, bien, cette portion-là, on ne vous l'admet pas. Vous ne pouvez pas le déduire.
Donc, ça veut dire qu'il faut avoir plus que 2300 de frais. Sinon, ça ne vaut pas la peine, ça,
non.
vous dites?
C'est, non. En fait, c'est... 3 % de votre revenu.
Oui.
Donc, admettons, j'ai gagné 30 000.
Oui.
Ça va me donner 900 $.
Oui.
Mon premier 900 $ n'est pas admissible.
Okay.
Mais si j'ai gagné 100 000 $ et je fais 3 %, ça me donne 3 000.
Oui.
Mais la loi a dit à 2 400 $ environ, t'arrêtes de calculer. Donc, tu peux commencer à déduire tes frais médicaux, non pas à 3 000, mais à 2
400. C'est ça. C'est un peu avantageux pour ceux qui font plus d'argent, finalement.
Non, parce que c'est un crédit d'impôt. Ils sont au contraire, c'est que la barrière d'entrée est plus élevée. Et donc, une fois qu'on devient admissible, c'est un crédit unique de 15 % au fédéral et de 20 % au Québec, qui est rendu à 15 % Alors donc, techniquement, ça n'a pas d'importance.
Ouais. Merci. On s'arrête ici. On revient avec les questions de nos auditeurs tout de suite après. Je suis en compagnie du fiscaliste comptable agréé André Boulet. Je rappelle son livre « Réduisez vos impôts pour l'année d'imposition 2018 ». C'est un complément essentiel au logiciel informatique. Si vous avez qu'un T4 par année, évidemment, vous pourriez tenter de faire appel à un logiciel. Puis finalement, quand on se rend compte qu'il y a des petites complications, qu'on commence à être aidant naturel pour un parent, qu'on a des enfants qui font des activités physiques, ça, je veux absolument le dire, parce qu'André, on pense que c'est fini, ça, le crédit d'impôt pour activité de nos enfants. C'est vrai au fédéral, mais au Québec, par exemple, si vous avez des reçus parce que votre jeune fait du kickboxing ou du hockey la fin de semaine ou du patin artistique, vous pouvez les garder ces revenus-là et demander donc un crédit d'impôt, n'est-ce pas?
Exact. C'est un crédit d'impôt de 20 % avec un plafond de 500 $ cette année.
Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix, ça te fait 100
piastres.
Ouais. Que le gouvernement n'aura pas. C'est ça le but de notre émission, entre autres. On a également des modifications en ce qui concerne le transport collectif. On a beaucoup d'appels de gens qui disent, bon, est-ce que ça vaut la peine que je garde encore mes reçus ou non? Parce qu'on a comme entendu qu'au fédéral aussi, ça tenait plus.
C'est fini.
C'est fini même au Québec?
Exact.
C'est fini, fini.
Ça n'a jamais été au Québec, de toute façon.
Et il n'y en avait pas au Québec. Bon. Ouais. Alors voilà, ça ne sert à rien de garder vos revenus. Ça, c'est un peu plate comme mesure.
Moi, je trouve.
Tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi ils n'ont pas gardé ça.
J'ai pas compris cette politique-là, je pense.
Ça, c'est comme Rénovaire. Là, ça a fini le 31 mars de cette année. Ça marchait pas? Ça marchait trop? C'est quoi le problème? Pourquoi ils enlèvent des trucs qui nous paraissent soit écologiques, soit... Le rabais là, pour le transport en commun, ça encourageait les gens à prendre du transport collectif. Là, tu te dis, ça, c'est une bonne mesure, non?
Souvent, ils vont, eux, évaluer le coût-bénéfice pour eux, à savoir administrer le programme coûte-tu plus cher que ce qu'ils vont donner.
Mais c'est un geste, puis c'est un symbole.
Ah oui, oui. C'est ça. Là, ça devient des choix politiques du gouvernement en place. Mais moi, je trouve que ça allait bien, ce programme-là. Les gens avaient compris comment ça fonctionnait. Puis
Rénovaire, même affaire.
C'est la même chose. Là, il terminait au 31 mars, là, mais je pensais qu'il le reconduirait. Là. On est là présentement avec rien là, pour la construction, là, ou à peu près. La seule chose, c'est les gens qui ont 65 ans et plus, qui veulent demeurer dans leur maison, qui font, par exemple, modifier leur escalier, qui posent des rampes dans la salle de bain ou des choses comme ça. Là, on peut aller jusqu'à 10 000 $ là.
OK. Ouais. On a Alain qui est avec nous. Bonjour, Alain.
Bonjour, Isabelle. Je pense que votre invité va être d'accord. Moi, je crois fermement que les Québécois sont les champions pour abandonner de l'argent sur la table.
C'est vrai, Sandré?
Oui.
À l'impôt, c'est ça? On calcule pas nos affaires, on en paye trop, c'est pour ça qu'on en paye trop?
Et je voudrais lancer un message là, à tous les diabétiques du Québec. Ne pas oublier le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ça s'applique à vous autres. Je parle pas des diabétiques de type 2, je vais parler des diabétiques de type 1, ceux qui sont à l'insuline. Vous avez droit à ce crédit-là. Je vous dirais que c'est pas tellement facile de l'avoir parce qu'il y a certains encore, malheureusement, trop de médecins endocrinologues qui veulent pas signer le papier. Vous pouvez le faire signer par une super infirmière. Ça, c'est accepté. Et ce crédit d'impôt-là est assez substantiel, tant au fédéral qu'au provincial. Mmh. Et en plus, vous pouvez remonter 10 ans en arrière, donc faire des amendements là, à vos rapports d'impôt.
10 ans?
Je vous dirai pas le montant que j'ai récupéré, mais c'est des milliers de dollars.
Oui. Ah ben.
En fait, vous semblez être bien au fait de cette problématique-là.
Ah ben,
vous avez entièrement raison.
Ils peuvent remonter 10 ans?
Oui, pour les gens qui sont à l'écoute, on parle d'un diabète sévère. Là. On parle pas, comme vous disiez, là, du diabète de type 2. Mm-hmm. Et la réticence que vous parlez de certains médecins à signer ce formulaire-là, je suis d'accord avec vous qu'il y en a de plus en plus qui veulent plus compléter ça. Comme vous disiez, l'avenue des infirmières, on parle d'infirmières praticiennes, pas nécessairement, selon moi, des super infirmières, qui pourraient maintenant signer ces choses-là. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit.
Voilà.
On parle d'à peu près une économie de 1 500 à d'impôts là, dans vos poches, là, de réduction d'impôts là, de 1 500
par an, sur 10 ans, c'est incroyable.
Et ça ouvre souvent aussi des programmes comme le REEI, le régime enregistré d'épargne invalidité, qui permet de mettre des sous de côté avec une subvention du gouvernement et, dépendamment de votre revenu, d'un bon
Mais là, est-ce
canadien.
Qu'il faut démontrer qu'on est en chaise roulante ou qu'on ne peut pas se déplacer?
Non, il faut avoir droit à ce qu'on appelle le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées.
Ah, c'est ça.
Alors, si vous avez ça, ben, il y a plusieurs crédits d'impôt qui sont associés à ce crédit-là. Mmh. Donc, ça vaut vraiment la peine de...
On a Lisette investir. Avec nous. Bonjour, Lisette.
Oui, bonjour à vous deux. Ma question, c'est que je suis propriétaire d'une maison à revenus. On habite le rez-de-chaussée puis une petite partie du sous-sol, mais on a un 3,5 au sous-sol qui est chauffé.
Mm-hmm.
Et l'année passée, on a dû changer la fournaise électrique qui nous a coûté 4 300 $.
Mm-hmm.
Alors, ma question, c'est que je pense que j'ai sûrement le droit de déduire une partie de l'argent qu'on a dépensé pour la fournaise, étant donné qu'on loue un 3,5 chauffé.
Bien, en fait, vous auriez le droit de mettre la portion du coût du tiers dans le coût de votre immeuble. Je ne sais pas si vous prenez de l'amortissement fiscal pour cet immeuble-là, mais vous ne pourrez pas déduire 100%.
Au complet, ouais.
Sauf que vous avez peut-être passé à côté d'un crédit, pas au niveau de l'immeuble locatif, mais vous, personnellement, quel crédit rénovaire qui existait à l'époque et qui existe toujours, qui serait possible probablement si vous avez votre contracteur qui le fait. Il faut que ce soit un contracteur là, qui a une licence là, ou qui est dans une association. Vous auriez le droit à un remboursement sur l'excédent du 2 500 $ là, de 20% au Québec.
Lisette, êtes-vous tombée dans les pommes de joie?
Ben là, oui, mais...
Ah, c'est quand même le fun de savoir ça.
Le crédit rénovaire, je pense qu'il fallait avoir signé en 2017, parce que nous, on l'a fait changer en janvier 2018.
Non, il a été prolongé.
Il a été dans le temps des fêtes.
Il a été prolongé jusqu'au 31 mars de cette année. Donc, les gens même qui ont acheté, par exemple, une chaudière là, ou un chauffe-eau le 30 mars de cette année, vous allez pouvoir le mettre dans vos impôts l'année prochaine, n'est-ce pas?
Exact. Voilà. C'est mieux que ça encore. Il faut que vous ayez signé les travaux.
Oui.
Avant le 31 mars et que les travaux soient exécutés avant le 1er octobre.
Le 1er octobre.
Mais nous, on a fait ça en janvier 2018.
Mais vous êtes couverte, c'est sûr.
Vous êtes correct.
Vous êtes correct, Lisette?
On aurait droit aussi à ça.
Oui, exactement.
Et j'aurais le droit, moi, vu qu'on loue un sous-sol chauffé, j'ai le droit d'en déduire une partie.
Oui.
Peut-être le tiers ou le pourcentage qu'on
L'équivalent en pied carré, là, mais bon, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. On vient tout de suite après la pause. On a Danick avec nous. Bonjour, Danick. Votre question à mon comptable, André Boulet?
Oui, bonjour. Moi, c'est ma question. C'est à partir de juin, je tombe en couple. Ben, dans le fond,
Vous tombez? J'espère que ça fera pas trop mal.
Non, je tombe conjoint de fait. Fait que là, je voulais savoir si c'était mieux d'avertir le revenu suite à ça. Parce que là, dans le fond, ça va venir jouer sur les allocations de ma conjointe pour ses enfants ou attendre au prochain rapport d'impôt.
En fait, au fédéral, oui, les prestations fiscales doivent être... vous devez aviser l'Agence du revenu du Canada par un formulaire où vous pouvez les appeler. Au Québec, maintenant aussi, surtout, en fait, les prestations fiscales sont régies par le régime de rente du Québec, donc il faut les informer. Mais maintenant, la détermination du statut pour ces crédits-là au niveau du calcul du revenu se fait le 31 décembre et non pas à la date du changement. Ça a déjà existé, ça a causé plein de problèmes et là, ils ont mis ça au 31 décembre. Mais oui, vous devez les aviser.
OK. Puis mon autre question, je vous écoutais tantôt. Nous, dans le fond, ma conjointe avait un condo à partir de juin qui est tombé, juin 2018, qui est tombé en locatif. Là, tantôt, vous parliez d'évaluation. Est-ce que là, nous, on loue? C'est sûr qu'on a changé sa vocation à partir de juin 2018. Est-ce qu'on est mieux faire évaluer le condo pour sa valeur au cas où si on le vend dans les prochaines années?
Effectivement, ça serait mieux. Maintenant, dans le cas où ça part de personnel à location, il n'y aura pas d'impôt comme tel parce que toute la partie d'avant, c'était votre immeuble résidentiel et donc vous étiez exempté. Maintenant, ça va avoir une vocation locative, mais oui, c'est mieux de faire évaluer.
Merci, Danique. Sylvie, bonjour.
Oui, bonjour. Ma question, moi, c'est mon mari travaille. Quand est-ce que, puis il a 67 ans, quand est-ce qu'on peut demander le supplément de revenu garanti?
Ah, très bonne question.
Bon, le supplément de revenu garanti est intégré à la prestation, en fait, la pension de sécurité de vieillesse, et donc c'est à compter de l'âge de 65 ans. Et c'est basé sur le revenu. Hein? Alors donc, pour un couple, on parle d'environ une quarantaine de mille si on inclut les pensions, la pension de sécurité de vieillesse de base. Donc, et la pénalité.
Donc, on a un revenu 47 000. Est-ce qu'on peut demander ça à 47 000?
47 000, selon moi, vous ne serez pas admissible.
Et on n'est pas admissible, hein? C'est ça, je pensais. Oui. Puis on peut le demander juste en bas de ce salaire-là, puis même s'il travaille, ça veut dire qu'il ne pourrait pas l'avoir dans le fond parce qu'il travaille 4 jours semaine.
Exact.
Fait que s'il fait moins que ça, je veux dire, il peut.
Vous pourriez peut-être gagner du supplément de revenu garanti. Il faudrait faire le calcul, voir.
C'est combien ça?
Ça peut aller jusqu'à à 9 000 $ par année. Là.
Parce que des fois, ça vaut la peine de travailler moins finalement.
Oui, effectivement. Faut juste comprendre
c'est un
que.
Calcul difficile. Ouais.
Sachez que maintenant, le gouvernement, là, un an ou deux, il y avait eu une étude, là, puis ils se sont aperçus que les gens qui étaient admissibles ne faisaient pas la demande. Mm. Alors, donc, ils ont modifié un peu les règles et maintenant, si vous devenez admissible, le gouvernement va vous verser la somme.
Ginette,
le calcul pour
vous. Ginette, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Oui, bonjour à vous deux. Moi, je voulais savoir si que j'ai vendu, j'avais une deuxième maison.
Oui.
J'ai dû la vendre, mais je l'ai vendue aussi sans profit. Fait que moi, tu sais, c'est comme à perte finalement parce que je l'ai vendu le prix que je l'ai payé, puis ça faisait au-dessus de 5 ans que je l'avais. Puis je voulais savoir.
C'est pas à perte, c'est sans profit. Vous avez pas de perte sur le gain en capital, vous avez juste pas de gain en capital.
Ben, ça dépend. C'est un immeuble
à moins
locatif.
À moins que vous... Ah ouais, c'est locatif?
Non, je la louais pas, moi.
Ah, il louait pas.
Ah, c'est comme un chalet.
Ouais. Mais comme une maison personnelle.
Là, je voulais savoir s'il y avait des choses que je pouvais déduire, comme à la vente ou le notaire.
En fait, si vous êtes à perte, les pertes ne seront pas admissibles. Cependant, si vous avez un gain... vous pourriez déduire, comme le monsieur parlait tantôt, vos frais de notaire, vos règlements de quittance s'il y avait une hypothèque ou des choses comme ça.
Merci de votre question. Il y a une chose sur laquelle on voulait revenir parce que beaucoup de gens, ça doit être des snowbirds qui m'écrivent et qui nous écoutent sur Internet et qui se demandent, par exemple, qu'est-ce qu'on déduit quand on vit la moitié de l'année aux États-Unis ou quand on a des propriétés aux États-Unis, est-ce qu'on doit payer de l'impôt ici? Comment ça marche, André, rapidement? Il nous reste une minute à peu près.
Vous êtes tenu de déclarer votre gain aux États-Unis. Vous pourriez être assujetti à l'impôt américain, sauf que si vous êtes encore résident canadien aux fins fiscales, techniquement, vous allez avoir un crédit d'impôt au Canada pour l'impôt que vous auriez payé aux États-Unis. Donc, ça évite la double imposition. Il faut juste faire attention au snowbird de la règle de résidence. Aux États-Unis, c'est le même nombre de jours qu'au Canada, sauf que c'est étalé sur 3 ans. Alors, théoriquement, c'est la première année. Donc, si on se met à l'année 2018, chaque journée que vous allez avoir passée va compter. Et celle d'avant va être un tiers et la deuxième année suivante va être de 1/6. Si le total de ces jours-là excède 183 jours, vous êtes réputé résident américain.
Ah oui?
Mais il y a une façon de s'en sortir. La façon de s'en sortir, c'est de compléter le formulaire 88-40 aux États-Unis, qui n'est pas vraiment complexe, et ça va éviter ces règles-là.
Merci, André Boulay. Mon Dieu, on pourrait faire une autre heure la semaine prochaine. Ça peut être une idée. Réduisez vos impôts. C'est publié aux Éditions de l'Homme. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci, Isabelle.
Ce soir, je sais qu'il y a une game de hockey, mais il y a aussi Zone Franche à 20h à Télé-Québec. Si vous voulez nous entendre discuter pas mal fort, ben, vous pouvez nous écouter. Merci d'avoir été là, tout le monde. À demain.